médical, c'est quelque chose qui est tout à fait actuel, on en parle sans arrêt, il y a des débats là-dessus, qu'est-ce que c'est, etc. Mais là, dans ce film-là, le noir, par définition, n'est pas, il y a deux soleils, mais c'est noir. C'est très loin, mais c'est quand même filmé. Mais... Oui.
Et c'est ça qui produit la couleur, quoi. Il y a tous ces petits phénomènes d'irisation sur les lentilles qui rendent en plus à l'origine du film qui est photographique, qui est écrit avec les lumières.
Oui, mais enfin, cette lumière, elle est. C'est pas ça qui rend la zone habitable.
C'est la mise à part, en fait, du film.
Ça. Oui, non, mais oui, cette volonté de mettre en évidence la technique, hein, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Mais moi, pour moi, cette zone habitable noire, qui n'est pas minérale, parce que comme je le disais, on voit des racines, on voit de la terre, donc on voit de la vie, parce que la terre, c'est de la vie. Et, ça, et donc, voilà, c'est un film qui m'interroge, puis ça, pour moi, c'est si j'avais un discours à faire autour de ce film, ce serait j'irais tout de suite vers la zone habitable, et donc le fantasme qu'on a, si c'est la zone habitable, c'est probablement habitable. Si c'est probablement habitable, c'est sûrement habité, c'est pas vraiment sûr. Voilà, maintenant on peut parler pendant longtemps. Voilà, je resterai déjà ça.
Non, mais justement, peut-être détachons-nous des images aussi très cinématographiques du film, qui nous dit un petit peu, pour parler de ce qu'est votre zone habitable ou non habitable.
Alors, la zone habitable. Donc, les astronomes qui se piquent de temps en temps des biologies, on dit qu'il faut définir quand même où la vie pourrait exister. On commence à définir ce que pourrait être la vie, c'est la chimie avec du carbone et de l'eau. L'élément important et autre chose à ce moment-là. Donc de l'eau. Donc pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait de la chimie, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Donc il faut que, en surface d'une planète, l'eau puisse exister. S'il y a de l'eau, et pour qu'elle soit liquide, il faut qu'il y ait une certaine pression, il faut surtout qu'il y ait une certaine température. Cette température provient de l'énergie du Soleil. Plus je me rapproche du Soleil, plus j'ai de l'énergie, plus je m'éloigne du Soleil, moins j'ai de l'énergie. C'est la règle de la distance, etc. Grosso modo, si je ne suis pas très loin d'ici, alors je prends n'importe quelle étoile, je sais que l'énergie est diffuse, par une opération de pensée, je prends la Terre, je la rapproche, c'est trop près, elle va être chaude, donc toute l'eau va être fondée par terre. Si je m'en éloigne, je prends la Terre. Et que l'idée presque, ça peut être trop chaud. Je m'en éloigne, je vais vers Mars, et là, la presse d'énergie, c'est ma glace. J'ai une boule de glace. Donc, dans ces zones-là, je détermine mon énergie. C'est ça la théorie. Alors, c'est pas une frontière, assise, etc. Ça dépend si la planète tourne, si c'est une œuvre, si c'est un nuage, si c'est un nuage, on prend la Terre. Mais voilà, ça c'est la zone habitable, le rôle était sur Job, Paris. Et donc actuellement, parmi les exoplanètes, on connaît actuellement pratiquement 4000 exoplanètes. Sur les exoplanètes, il y en a à peu près une cinquantaine qui ont la taille de la Terre, presque, et qui sont dans la zone. Et donc les journalistes scientifiques les voient tout de suite habitables, voire même agités.
Mais il y a aussi des débats, des débats, c'est que la taille de la planète fait partie du raisonnement. Et aussi, par exemple, en ce qui concerne la Terre, une partie de son énergie vient du cœur de la Terre, qui est toujours chaud, qui rayonne de l'énergie, et qui donc change un peu les données du problème. Ce n'est pas seulement la géométrie qui dépend seulement du rayonnement de l'étoile, c'est en train d'y avoir d'autres phénomènes qui entrent en jeu. Ce qui fait que la notion de l'espace habitable est réelle, mais elle est mouvante. Elle est un peu plus mouvante que les flux avancés.
Et les flux.
Et les flux, voilà. Donc ça vous laisse, vous, artistes de la marge, pour inventer des mondes hors des zones habitables, mais avec d'autres phénomènes qui la rendent habitable.
Non, ce qui est amusant, c'est surtout des zones habitables qui sont vues par exemple sur les satellites glacés des planètes urbaines. Les planètes qui sont à 7-10 unités astronomiques, de très longs durées, donc elles regardent très très peu de soleil, très très peu d'énergie solaire. Et par contre, il y a autour de ces planètes, autour de cette grande planète énorme, satellite, Europe, beaucoup d'entre eux, et donc qui sont des satellites recouverts d'une couche de glace, on dit 700 km pour simplifier, et sous cette couche de glace, on a détecté un océan qui ferait entre 100 et 1000 degrés de profondeur. Je rappelle pour la mémoire que la plus grosse épaisseur de glace qu'on connaît sur Terre, c'est 3 km de profondeur. Et l'endroit le plus profond, qui est ordre de grand, le plus profond, c'est le fosse de Marianne à 11 km. Donc voilà, 500 km, c'est pareil, là, la distance, c'est. Mais les scientifiques qui sont prêts à apprendre la chimie, elles cassent un trou pour aller serrer la main aux sirènes qui sont en train d'aller pour l'Europe. Hein. On est vrai. Donc, voilà. Et cette zone, elle est considérée comme optimale parce que les mouvements des marées terrestres provoqués par la Terre font que le cœur vibre, pas comme ça, par la mesure des orbites. Et ces vibrations génèrent de la chaleur, et cette chaleur est suffisante pour entretenir une activité économique qui pourrait peut-être organiser la présence du chiffre de l'étoile. Là, par contre, tous les fantasmes sont ouverts, de la plus belle des sirènes, la plus horrible des bêtes de l'économie.
Et alors, pour son point d'image, si je veux, sur Terre, on a trouvé près des fumeurs sous-marins, enfin, des fumeurs, c'est des zones volcaniques au fond de l'océan. On a trouvé effectivement des formes de vie complètement nouvelles, inattendues, qui sont limitées à ces zones où il n'y a pas d'oxygène, il y a une très grande pression. Ce sont des formes de vie qui sont liées au soufre, je crois, notamment, qui vont chercher leur énergie dans des molécules soufrées et pas aussi d'oxygène. Voilà. Et donc on a constaté effectivement que le moindre endroit sur Terre permet la vie s'y trouve. Donc on pourrait poser peut-être aussi. Quand on a la question de tout à l'heure, c'est au fond, qu'est-ce que ça fait au cosmos qu'il y ait de la vie ?
Il y a de l'oxygène.
Oui, il y a de l'oxygène ici.
Il y en a pas mal. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il fait chaud. Il fait chaud parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est ça qui est extraordinaire. Et malgré ça, il y a une vie qui. Alors, c'est une vie qui est chimie autotrophe. Il se nourrit des éléments chimiques essentiellement pour survivre. Et ils n'ont pas besoin de lumière. Et puis, il y a des températures. Gigantissime. C'est des eaux hydrothermales, ça peut dépasser facilement les 200 degrés, sans aucun problème.
Il y a de la vie à 200 degrés.
Il y a de la vie qui foisonne autour, alors il y a des organismes qui sont beaucoup plus proches, c'est sur ça. Je ne suis pas bien placé pour en parler, les bactéries extrémophiles, ça c'est des bactéries qui résistent à des choses avec la colère.
Et là, il y a des extrémophiles, ce sont des espèces principalement bactériennes qui vivent dans des conditions dans lesquelles il y a des conditions de façon générale. Très sec, très chaud, très froid, très radioactif, etc. La championne du monde actuellement de bactéries qui a cette température normale de reproduction de vie, c'est 113 degrés, c'est au-dessus de la température de stérilisation. 113 degrés, et donc, il y en a qui vivent dans des réacteurs nucléaires, voilà, c'est sur le même principe, mais par contre, c'est toujours le même phénomène de vie qui fait ça. Les extrémophiles.
Emmanuel.
Moi, je voulais revenir sur. Tout d'abord, l'idée des autres critiques, au fond, répond à la question de Pierre sur qu'est-ce que ça fait à la vie d'habiter à le cosmos, ou bien peut-être la question contraire, qu'est-ce que ça fait au monde. Le fait d'être habité, au fond, cette question est la grande question de l'écologie, de la marque de ce qu'aujourd'hui. Mais je voulais revenir à ce que vous avez dit, juste un passant sur le fait que le monde est probablement habitable, il est habité, donc il doit être. Sur cette question de la modalité, en fait, qui est intéressante, parce que dans tous ces discours sur la zone habitable, on oublie aussi. Pas dans les débats, mais dans la manière dans laquelle on l'a présenté ici, on dit aussi que c'est central, juste des questions qui sont géologiques, astronomiques, etc., qui est une espèce de fait d'avalanche. C'est ce que votre définition même de la vie, faire plus à partir de même, de la vie qui est quand même au cœur de la vie et qui fait qu'une grande partie du fait que la Terre est habitable,
très bien de la vie elle-même. Ce sont les êtres vivants qui ont rendu de plus en plus habitable pour les autres cet espace. C'est-à-dire, vous avez parlé de la catastrophe de l'oxygène qui était aussi partiellement induite par des êtres vivants et qui a été énormément intensifié par la diffusion de l'eau particulière. Donc, au fond, il y a un paradoxe qui est difficile à penser, mais qui est absolument central pour penser les rapports entre monde et la vie, c'est que, bien évidemment, il y a des œuvres qui sont a priori habitables, mais qu'il y a un effet d'habitabilité, d'habitabilification de la Terre par les vivants lunaires, qui est absolument incroyable, c'est-à-dire au fond la terre habitable, parce qu'il y a d'autres vies pour nous les hommes, parce qu'il y a les plantes, il y a la terre par parce qu'il y a d'autres organismes, etc. Donc ce qui rend à mon avis un peu plus complexe et fascinant même d'un point de vue plus conceptuel, ce concept-là.
La vie est que la vie est une maladie contagieuse du minéral.
Du monde, peut-être c'est la maladie du monde, pas que du minéral.
Oui, je pensais une autre œuvre de la partie de l'exposition, mais pour revenir sur ce que disait Val tout à l'heure, sur la valeur peut-être de l'ombre, et du moins en film de Marino, je pensais au film de Boris Rio, alors j'ai pas le titre en tête, mais qui a été filmé les profondeurs des océans. Pour aller observer justement des formes vivantes, là où il n'y a pas de lumière, où la lumière ne peut pas physiquement aller. Et en fait, d'utiliser le film et la projection, je pense que c'est une valeur aussi symbolique très forte, peut-être que ce soit la lumière qui finalement nous permette la perception, alors qu'en fait, ce n'est jamais visible. Et moi, je vois pas ça comme J'ai compris que le jardin était noir en réalité, puisqu'il avait utilisé des ardoises, et, peut-être des granites, voilà. Mais du coup, ça c'est la matérialité du décor, mais moi il me semble que c'est peut-être la nuit et que les sons dans le film de Parino ou dans le film de Zéro, si quelqu'un se souvient du titre, renvoie plus à la nuit et que la bande sonore nous invite à utiliser aussi d'autres modes de perception pour ces toutes petites choses, enfin, cet ensemble de petits points qui scintillent, qui sont difficilement perceptibles si on n'est pas concentré ou si on n'est pas dans un dispositif, c'est un peu pour moi, je pense que vous disiez tout à l'heure, un dispositif de perception et des modalités de compréhension. Enfin,
Oui, je suis assez dans le sens de cette lecture. Parce que jardin noir, ça m'évoque immédiatement matière noire. C'est précisément le jardin que font tous les jardins, c'est la matière invisible que font toute matière. C'est un travail sur la perception, quand même, ce film. Et sur l'imperceptible au sein même de la perception, ce qu'on ne voit pas du jardin, qu'au fond de tout jardin, enfin, c'est comme ça, presque, que je verrais aussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le titre Jardin noir. Comme dans le cosmos, il y a 90% de la matière manquante, dans les jardins, il y a 90% de la matière manquante aussi, qui nous est donnée à voir dans ce jardin.
Le fait du mouvement de la caméra, en fait, ce qui est habitable, est-ce qu'au bout d'un moment, c'est quoi aussi la possibilité de mouvement qui est ici retransmise par la caméra? C'est-à-dire qu'en fonction des éléments qui sont filmés, que ce soit les numéros avec les scintillements, parce qu'ils filment par le dessus, par une vitesse assez rapide, quand il y a les arbres, il y a tout un jeu en fait, de mouvements qui se produit pour aller jouer avec la lumière qui est derrière.